Alors, mon verset ce matin, c'est... Je vais mettre mes lunettes. Le verset 14 à 16. Ésaïe chapitre 49. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Regardez, c'est pas merveilleux ça. Voici, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Frères et sœurs, ce matin, votre nom, il est gravé dans les paumes de la main des mains du Seigneur. Gravé dans les paumes de la main du Seigneur. Dans la Louis II, il est écrit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Mais dans le texte original, on spécifie que vos noms sont gravés sur les paumes des mains du Seigneur. Vous êtes amen à ça? Frères et sœurs, quand le Seigneur a ses mains comme ça, c'est pas trop souvent, mais quand il les a comme ça, vos noms lui sautent tout de suite aux yeux. Comment pourrait-il faire pour vous oublier? Vos mains sont gravées dans les paumes des mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore une fois ce matin, parce que non seulement, Seigneur, nous nous sommes rappelés il y a quelques semaines que ton regard était porté sur nous, Seigneur, jour après jour, que tes oreilles entendaient nos prières, Seigneur, mais aussi ce matin, eh bien, nous sommes dans la joie de savoir, Seigneur, que nos noms sont gravés dans les paumes de ta main. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, vraiment ce matin ouvrir nos cœurs afin que, Seigneur, si nous avons l'impression que tu nous as oubliés, si nous avons l'impression que tu nous as abandonnés, eh bien, que nous puissions avoir la certitude, Seigneur, que nos noms sont gravés dans les paumes de ta main. Et que pour tous ceux qui t'appartiennent aussi, Seigneur, eh bien, nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Gloire te soit rendue, Seigneur, que tu puisses nous guider dans le parcours de ta parole ce matin. Amen. Alors, si vous prenez le temps de lire tout le chapitre dans lequel se trouve ce verset, vous remarquerez que ce chapitre se divise en deux parties. La première partie concerne le glorieux serviteur de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un passage, Isaïe, on dit que c'est le cinquième évangile, hein. Et le passage dans le psaume 49, le Seigneur Jésus-Christ, il est omniprésent, quoi. Pardon. Et lorsque nous portons un premier regard sur le ministère de Jésus parmi le peuple juif, eh bien, c'est la semaine passée que j'avais dit de ne pas en faire un dogme, mais j'avais pris des paroles dans un psaume, les rapportant à Jésus dans le jardin de Gethsémané. Et je pense encore ici qu'il y a des paroles que Jésus peut avoir prononcées dans le jardin de Gethsémané. Parce que quand vous portez un regard sur le ministère de Jésus, eh bien, parmi le peuple juif, on a l'impression qu'il a travaillé en vain. Quand on marche par la vue, on a l'impression qu'il a travaillé en vain. Lorsqu'on considère que la plupart de ceux qui l'ont suivi, eh bien, l'ont abandonné, et que tout le peuple va répondre aux paroles de Pilate en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et la seule voix qu'on entend parmi cette foule lorsqu'il est devant Pilate, c'est pas « Merci Jésus de m'avoir guéri, merci Jésus de m'avoir donné la vue, merci Jésus de m'avoir permis de marcher ou d'entendre », c'est quoi? Crucifie-le. Crucifie-le. Et moi, je pense qu'on peut comprendre aussi pourquoi, en lisant ces paroles, les paroles qu'on a eues la semaine passée, qui nous donnent un petit peu un compte-rendu de ce que Jésus peut avoir, de l'état d'âme de Jésus dans le jardin de Gethsémané, on peut comprendre que Jésus devait se sentir vraiment, mais vraiment seul dans le jardin de Gethsémané. Je parle dans son 100% homme, bien sûr. Il va dire, quant à moi, verset 4 ici. Bon, moi, je fais-en pas un dogme, mais je pense que ce sont des paroles qui viennent de la bouche de Jésus. Quant à moi, je pensais que c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais regardez ce qu'il rajoute au verset 4. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Verset 5. Et je serai glorifié aux yeux de l'Éternel parce qu'il reconnaît la valeur de mon service et mon Dieu sera ma force. Et frères et sœurs, ici, je pense qu'on a une première application qu'on peut faire des paroles qu'on vient de lire ici ensemble. Le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu pour servir. Et à travers son service, écoutez, à partir du moment où il faisait du bien aux gens, eh bien, les gens, alléluia, gloire au Seigneur. Et l'être humain étant ce qu'il est, eh bien, plus le temps passe, et à un moment donné, on dirait qu'on est des auditeurs oublieux, mais on est oublieux aussi dans notre cœur. Et plus le temps passe, et plus on est porté à oublier les bénédictions, les bienfaits qu'on a reçus du Seigneur. Et en l'espace de 3 ans, c'est un peu plus de 3 ans dans son ministère, eh bien, à la fin de sa vie, tous ceux à qui il a fait du bien, les miracles qu'il a accomplis, eh bien, le Seigneur a l'impression, à travers ses paroles qu'il nous dit, il a l'impression qu'il a, que son ministère n'a pas porté du fruit. Et l'application que je voudrais faire ce matin, c'est que si vous êtes un responsable de ministère, si Dieu vous appelle à une responsabilité dans l'Église, c'est toujours comme ça, au tout début. C'est tout nouveau, tout beau, dit le proverbe. Les gens, eh bien, ils vous louent. Genre, c'est magnifique. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé tel homme. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé telle femme. Et là, on le loue. Et avec les semaines, avec les mois, eh bien, on s'habitue. On s'habitue. Comme les gens, écoutez, c'est bizarre à dire, mais comme les gens s'habituent à la présence de Jésus. C'était devenu une habitude de le voir. Et il y en a qui allaient le voir. Pourquoi? Pour voir les bénédictions qu'ils pouvaient donner à d'autres, mais pas nécessairement aller chercher des bénédictions pour eux. Et là, ici, le temps passe et on oublie, on tombe dans une certaine routine. On commence à dire, ben, ça fait longtemps qu'il est responsable, lui, hein? Oui, puis bon, c'est toujours la même chose. On oublie, on est comme ça, quoi. Et finalement, le responsable, ben, il sent, par rapport à ses débuts, qu'il n'y a pas nécessairement, finalement, le même appui, le même soutien. Et il peut être porté à dire les mêmes paroles ici qui sont prononcées. J'ai l'impression que j'ai travaillé en vain. J'ai l'impression que mon ministère, c'est le néant, c'est le vide. Et je ne sais pas si je vais continuer. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Heureusement que le Seigneur, dans son 100% homme, 100% divin, heureusement qu'il ne marchait pas par la vue. Heureusement que sa force, c'était dans le Seigneur. Et c'est une invitation pour nous, lorsque Dieu nous appelle à un ministère, de jamais marcher par la vue, de jamais s'appuyer sur nos propres forces pour servir Dieu, mais de toujours s'appuyer sur la force du Seigneur, parce qu'à un moment donné, il risque d'avoir des creux dans le ministère. Et surtout, ne pas marcher par la vue, pourquoi? Parce que si on enseigne la parole de Dieu, si on n'est pas là pour amuser les gens, mais enseigner la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait son œuvre dans le cœur des gens. Et les fruits, on risque de les voir des années plus tard. Et les fruits de votre ministère, vous risquez de les voir non pas nécessairement sur la terre, mais même au ciel. Jésus, par exemple, au ciel, a vu les fruits de son ministère, les fruits que son ministère terrestre a portés à travers les apôtres, à travers ceux qui ont suivi les apôtres, et à travers toute l'histoire de l'Église, Jésus a vu les fruits de son ministère sur la terre. Alors, c'est pour ça que c'est important. Écoutez, le ministère, lui, ça, il a été 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, à servir. Vous êtes peut-être appelé à servir le Seigneur 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, toute votre vie. Mais je sais que c'est fort encourageant de voir les fruits, mais souvent les plus beaux fruits, on les voit pas nécessairement maintenant. On les verra au ciel, quand on se croisera, on se rencontrera, puis quelqu'un nous dira, « Hey, te souviens-tu? Toi, tu étais le premier qui m'a annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. » Je t'ai pas dit oui tout de suite, mais ça a mijoté dans ma vie. Je me suis acheté une Bible, et à partir de là, j'ai découvert le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que tu étais un maillon de la chaîne que Dieu a placé dans ma vie. Le problème pour nous, c'est très difficile. On fonctionne par les résultats parce qu'on vit dans une société qui marche par les statistiques. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, les statistiques, Dieu n'en a rien à cirer, les statistiques. Dieu ne fonctionne pas par les statistiques. Dieu ne marche pas par la vue. Dieu ne fonctionne pas par les apparences. Dieu regarde au cœur parce que c'est dans les cœurs qu'il agit. Dites amen à ça. Alors, si ça peut vous encourager, moi, je peux vous dire que s'il y en avait un qui était marché par la vue, hein, qui avait marché par la vue, eh bien, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Et c'est le grand Noé. Hein? Le père Noé, vous savez, il a prêché l'Évangile pendant 120 ans. 120 ans. Il a annoncé l'Évangile. Vous savez quel fruit il a vu? Zéro. Les seuls qui sont rentrés dans l'arche, c'est sa famille. Frères et sœurs, si à travers tout votre ministère, Dieu vous permet d'amener une seule âme à Jésus-Christ, vous aurez fait plus encore que ce que Noé a fait pendant 120 ans. C'est encourageant, ça? Vous savez pourquoi Noé continuait à construire son arche? Parce qu'il faisait confiance au Seigneur, et le Seigneur, c'était la force. Sa force à lui, c'était le Seigneur. Et il s'appuyait sur la parole de Dieu, il savait qu'il y avait un jugement qui s'en venait, et il s'appuyait sur la parole de Dieu, mais dans le livre de Jude, on nous explique que Noé, pendant de nombreuses années, a proclamé l'Évangile. Et les gens devaient le regarder, disaient, hey, le Père Noé, ça va pas, quoi, tu fais de l'Alzheimer, ça va pas, quoi. Il n'a jamais eu de déluge, quoi. Hey, il va te faire soigner. Vous imaginez toutes les moqueries qu'il a pu avoir subies, ce bonhomme-là? Il était tout seul contre toute sa génération. Et en plus, il devait essayer probablement d'essayer de ramener ses enfants, de les garder dans cette promesse du Seigneur qu'il y a un jugement qui venait. Ses enfants, comme vos enfants, devaient être tentés d'aller aussi à l'extérieur, d'aller dans le monde, dire, écoute, papa, il y a quelque chose qui va pas, quoi. T'es tout seul contre toute la terre, quoi. Ça se peut-tu que tu sois dérangé? Ça se peut-tu que tu entendes des voix, papa? Il a dû lutter contre ça, comme nous, on doit lutter pour nos enfants, quoi. leur faire comprendre que le monde, tout ce qui les attend, c'est des pièges que dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui dirige le monde. Et le diable a rien de bon, rien à cirer avec vos enfants. Le diable haït vos enfants parce qu'il déteste tout ce que Dieu a créé. Et il les déteste encore plus. Il vous déteste encore plus parce qu'il sait que vous êtes les seuls capables dans toute la création d'avoir une relation avec Dieu. Non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Alors, ça peut vous encourager. Écoutez, si vous amenez une seule âme au Seigneur pendant les 5, 10, 15, 20, 30, 40 années, 50 années pour les plus jeunes qui restent à vie, eh bien, le Seigneur vous aura encore béni plus qu'avec Noé. Quel test de foi pour Noé! Quel test de foi! Et frères et sœurs, à travers notre service, à travers notre témoignage, Dieu veut aussi nous permettre de tester la valeur de notre foi. Pourquoi on évangélise? Pourquoi on sème la parole? Est-ce que c'est pour s'amasser des trophées? Pourquoi on le fait? Les fruits, on les verra peut-être pas. Vous verrez peut-être pas les fruits de votre ministère. Le Seigneur veut vous utiliser. Et vous utiliser pour l'avancement de son royaume. Mais vous verrez les fruits. Vous verrez peut-être les fruits au ciel un jour. Je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, verset 5, parce qu'il reconnaît la valeur de mon service, et mon Dieu sera ma force. Et Dieu lui répondra, cela ne suffit pas, verset 5 et 6, cela ne suffit pas que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Une autre application ici, vous avez été sauvé, pourquoi? Vous avez été sauvé pour porter le salut en Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Il y en a, ça va se limiter en Belgique, il y en a d'autres, ça sera pour d'autres pays, mais vous êtes appelés à prendre la relève de Jésus-Christ pour porter ce message de salut jusqu'au bout du monde. Vous êtes amen à ça? Imaginez la joie qui doit avoir rempli le cœur de Jésus, alors qu'il sait que son heure est venue d'accomplir sa mission au plus profond de son agonie. Dieu lui confirmait qu'il n'avait pas travaillé en vain puisqu'Israël avait rejeté le Messie, mais que toutes les nations finalement, parce qu'Israël avait rejeté le Messie, toutes les nations recevraient cette annonce de l'Évangile, recevraient cette lumière qui annonce le salut de Dieu. La deuxième partie du chapitre, elle fait référence à Jérusalem. On parle de Sion, hein, au verset, j'ai peut-être une petite note à vous donner là-dessus, verset 14. Et Sion, finalement, c'est le nom biblique qui est donné à Jérusalem. Mais dans le contexte ici, Sion, il parle. Alors, ça fait partie des habitants, ceux qui se rendaient prier à Jérusalem, ça fait partie de ceux-là. Et dans le contexte ici, on doit se rappeler que Jérusalem, les habitants ont été déportés, quoi. Ils sont déportés très loin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Sion formule une plainte à l'Éternel. En soupirant, verset 14, « L'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. » En d'autres mots, Seigneur, tu bénis les gentils, mais tu me laisses sans bénédiction. Tu rassembles vers toi les multitudes pour glorifier ton Fils, mais moi, Sion, la première que tu as choisie, celle que tu as aimée la première, eh bien, j'ai l'impression que tu m'as abandonné et que tu m'as oublié. Tu es en train de se plaindre ici, Sion. Et regardez quelle sera la réponse du Seigneur, verset 15. Une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'aura-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Frères et sœurs, vous arrive-t-il de vous retrouver dans le même état d'esprit que se trouvait Sion ou Jérusalem à cette époque? Au point où vous vous imaginez que Dieu vous a peut-être oublié. J'aimerais vous rappeler que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, celui-ci nous donne une réponse semblable à celle qu'il a donnée à Jérusalem. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Et à partir de cette courte phrase, j'aimerais vous parler, pendant un instant, de la crainte ici qui est exprimée dans notre texte. Cette crainte qui, lorsqu'elle s'installe dans le cœur des membres du peuple de Dieu, les amène à dire, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une peur que beaucoup ont déjà ressentie et qui est la chose la plus contagieuse qui soit. Lorsqu'elle se répand dans le cœur de quelqu'un, elle finit par se répandre dans le cœur de beaucoup d'autres, jusqu'à ce qu'un esprit de panique se manifeste, et à partir d'un incident très bénin, et ce, à partir d'un incident très bénin. Et dans notre texte ici, tout Jérusalem craint que Dieu l'ait oublié. Et je suis convaincu que ce matin, je suis convaincu que je m'adresse pas à une église qui ressemble à celle qui s'exprime dans notre texte ici. J'ose espérer que la plupart de ceux qui sont présents dans cette salle savent que Dieu ne les a pas oubliés. J'espère que c'est une certitude pour vous. parce que vous marchez dans la lumière et que vous faites ce que Dieu approuve. Je sais malgré tout qu'il y en a, peut-être parmi vous, qu'à un moment donné, même si nous ne l'avons pas exprimé à haute voix, nous avons soupiré dans notre cœur, l'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Pourtant, je ne sais pas si ça vous est, je vous demanderai pas de lever la main, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans le passé, mais pourtant, on s'est rendu à l'Église pour entendre la parole de Dieu, pour louer et adorer le Seigneur, et pour rencontrer nos frères et sœurs. On les a vus, on rentre dans l'Église, on les a vus rayonnant de joie. On a été nourris par la parole que nous avons entendue. Elle nous a rappelé notre espérance, elle nous a rappelé les promesses de Dieu. Mais malgré tout, on a quitté l'Église en disant « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Ça vous est-il déjà arrivé, ça? Ne levez pas la main, réfléchissez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes rentré dans l'Église, vous étiez triste. Vous êtes ressorti de l'Église, vous étiez tout aussi triste. Vous étiez dans un esprit où vous avez l'impression que Dieu vous avait abandonné puis que le Seigneur vous avait oublié. Si ça vous est jamais arrivé, pardon, j'espère que cela ne vous arrivera jamais. Mais il est possible que pour la plupart d'entre nous, il nous est arrivé de penser à un moment donné, ou à un moment ou l'autre dans notre vie, que l'Éternel nous avait abandonnés et que le Seigneur nous avait oubliés. Frères et sœurs, il nous est pratiquement tous arrivé un jour, malgré la grande joie qui régnait dans l'Église, que nous étions incapables de participer à quoi que ce soit, parce que nous gémissions et soupirions dans nos cœurs. Les mains pleines de pouces. Nous entendions les cantiques, mais nous étions incapables de chanter parce que notre cœur n'y était plus. Ou notre cœur n'y était pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Levez pas la main. Faites juste réfléchir à ça. Plus les gens exprimaient leur joie et plus votre chagrin augmentait. S'il y a dans cette salle des personnes qui sont dans cet état d'âme ce matin, je vais vous répéter les mêmes paroles que Dieu a données à Sion au verset 13. L'Éternel console son peuple. Il fera miséricorde à ses affligés. L'Éternel console son peuple et il fera miséricorde à ses affligés. Et il fera miséricorde ici, c'est qu'il montrera son amour à ses malheureux. Il montrera son amour à ceux qui sont affligés. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de ne pas s'entêter comme Sion, qui se plaint ici d'une façon qui n'est pas raisonnable, malgré que le Seigneur lui dise qu'il console son peuple et qu'il fait miséricorde à ses affligés. Quelle est la réplique de Sion, ici, verset 14? L'Éternel nous a abandonnés et le Seigneur nous a oubliés. Frères et sœurs, lorsque nous nous plaignons et que nous disons que l'Éternel nous a abandonnés, que le Seigneur nous a oubliés, nos plaintes n'ont généralement aucun fondement. C'est notre état d'esprit qui est mauvais, parce que l'Éternel veille sur nous au-delà de ce qu'un père peut faire. Vous dites amen à ça? Ah oui, ah oui. L'Éternel veille sur nous au-delà de ce qu'un père peut faire. Nos pères, ils travaillent. Ils peuvent pas s'occuper de nous 24 heures sur 24. Ils peuvent pas veiller sur nous 24 heures sur 24. Mais l'Éternel, il y a toute l'éternité devant lui. Et l'Éternel, il veille sur vous 24 heures sur 24. J'espère que c'est une certitude dans vos vies. Avant que je m'effondre et que je perde connaissance, je vais partir le ventilateur. Là, je reçois tout la misère. On vit l'expérience de l'estrade pour voir qu'il fait chaud quand le vent, quand ça souffle là-bas. Hein. C'est terrible, quoi. Un enfant qui reçoit une correction de la part de son père passerait pour un idiot s'il disait « Mon père m'a abandonné ». Mon père l'a abandonné. La correction qu'il reçoit lui rappelle que son père, justement, ne l'a pas oublié. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi j'étais assez entêté, jeune. Et il est arrivé que mon père, il m'avait mis en punition dans ma chambre. Et je sortais par la fenêtre. Je dois témoigner aujourd'hui, mon père ne m'a jamais oublié. Il ne m'a jamais oublié parce qu'il m'aimait et qu'il voulait le meilleur pour moi. Et il m'attendait. Il avait des bons bras, une bonne grosse main, il m'attendait. Bien, il en est de même pour Dieu avec nous, frères et sœurs. La correction que reçoit chaque fils légitime garantit que Dieu veille sur vous et qu'il ne vous a pas abandonné. S'il n'était pas intervenu, vous auriez raison de dire « Le Seigneur m'a oublié ». Alors, s'il vous est arrivé de dire « Le Seigneur m'a oublié », rejetez cette parole, frères et sœurs, vous vous êtes trompés, car il ne peut oublier quelqu'un qui fait partie de son peuple. Vous êtes gravés dans les paumes de ses mains. Si jamais vous vous avez dit « L'Éternel m'a abandonné », je vous invite à retirer aussi ces mots de votre bouche, car il est impossible que l'Éternel puisse changer ou que son amour envers vous puisse disparaître de son cœur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont des promesses. Et vous lirez les Écritures aussi, souvent, Dieu accompagne ses promesses d'un serment. Écoutez, mais la Bible nous dit que Dieu accomplit ce qu'il promet, mais les Écritures, surtout dans Hébreux, on nous dit que Dieu, souvent aussi, va accompagner une promesse avec un serment. C'est quelque chose, ça. Non seulement il connaît comment on tremble à pas grand-chose, qu'on remet en question des choses facilement, mais non seulement il nous fait une promesse, mais il dit, écoute, en plus, je mets mon cachet par-dessus ça, je mets mon serment par-dessus ça, je prends le serment qu'écoute, je vais l'accomplir, pour nous donner une assurance encore plus grande qu'il ne nous fera jamais défaut. Moi, je pense que Sion, ici, en est arrivée à cette conclusion parce qu'elle avait été déportée très loin du pays où coule le lait et le miel et qu'elle souffrait en exil. Doit-on en arriver à cette même conclusion que Sion pour toutes nos souffrances? Est-ce, frères et sœurs, est-ce que la vigne dit « Le vigneron m'a abandonné parce qu'il m'a émondé »? Est-ce que le malade dit « Le médecin m'a abandonné parce qu'il m'a donné un médicament tellement amer » Est-ce que le patient qui passe sous le bistouri dit « Le chirurgien m'a abandonné parce qu'il vient de me couper la peau » Mais il en est de même pour nous, frères et sœurs. Ne jugez pas le Seigneur en fonction des apparences ou encore en fonction de ce que vous ressentez. Faites-lui confiance même quand vous ne voyez aucune trace de sa bonté pour vous. Laissez Dieu se manifester. Et vous verrez qu'il va tenir sa promesse envers vous. Il ne change pas, il est impossible qu'il change un jour. Il sera fidèle à chacune des paroles qui sont sorties de sa bouche. Ésaïe chapitre 50, verset 23. Ceux qui espèrent en moi ne seront point déçus ou confus, nous dit la parole. Fortifiez-vous par ces paroles ce matin, frères et sœurs. De plus, même si notre texte ici contient une parole plaintive, nous y trouvons ici aussi une parole de foi. Sion appelle l'Éternel le Seigneur. Mais ce qui est intéressant ici dans le texte hébreu, c'est pas le Seigneur, c'est le Seigneur à moi. Et sur le traduit en français, on devrait lire ici, l'Éternel m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Vous l'avez ici au temps présent dans la Louis II, mais dans l'original, c'est au passé. C'est « Le Seigneur m'a abandonné et l'Éternel m'a abandonné et mon Seigneur m'a oublié. » Alors, si on a une parole ici plaintive de Sion, on a aussi une parole de foi. Sion va dire ici « Mon Seigneur », même si elle pense que son Seigneur l'a abandonné. Et tout comme Sion, ce qui est rassurant, c'est que même s'il vous est arrivé de penser que le Seigneur vous avait oublié ou qu'il vous avait abandonné, contre toute logique, ce qui m'encourage, c'est que vous persévérez quand même dans votre foi, et ce, malgré, et même si vous dites toujours « Mon Seigneur ». Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu qui vous aime depuis toujours pourrait un jour vous oublier? Accrochez-vous à cette certitude que c'était une question de vie ou de mort pour vous, que la foi de Job soit aussi la vôtre. Je vais vous donner des versets pour ceux qui prennent des notes. Dans Job, chapitre 13, il dit, « Voici quand même, il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui. » C'est fort, ça. Hein? Même si Dieu, je me regarde, je suis dans un état lamentable, il n'y a personne qui ose me regarder. J'ai l'air d'une grosse croûte qui est en train de se décomposer. Personne ne me regarde. Ben, c'est à peu près ça que le texte veut dire, quoi. Je vois qu'il y en a qui font la grimace, mais c'est un peu ce qui se sent. Il était repoussant, Job. Hein? Il n'y a personne qui voulait le regarder, quoi. Il pourrissait debout, quoi. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, même si Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Après que ma peau serait détruite, que mon corps se couvre de vers, moi-même, je contemplerai Dieu. Je continue à lui faire confiance. Et ça, c'est une parole réconfortante, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que vous savez que votre Rédempteur est vivant ce matin? Amen. Alors, vivons en fonction de cette vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Votre Rédempteur est vivant. Vous allez le rencontrer. Et même si vous prenez la vie, et même si à travers la maladie, on vous dit, écoute, il est trop tard, c'est terminé, eh bien, tu vas quitter ce monde comme Job, que vous puissiez avoir la certitude, non pas de vous accrocher après les meubles, non pas de vous accrocher après le manteau du médecin, mais que vous puissiez dire comme Job, il n'y a pas de problème, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais où je m'en vais. Et je sais qu'il reviendra un jour chercher ceux qui lui appartiennent. Pour celui qui possède une telle foi, même si elle est toute petite, elle glorifie le Seigneur. Et moi, j'aime bien ce petit mot « mon » qui se trouve « mon Seigneur »,« mon » qui se trouve dans ce texte. C'est un mot qui contient juste trois lettres, hein, « M-O-N ». Mais elle sous-entend une espérance incalculable pour quiconque l'emploie, comme si on le fait ici. Vous souvenez-vous, Pharaon, quand il dit à Moïse, hein, va prier ton Dieu, qui, les plaies. Pharaon ne pouvait pas dire, je vais prier mon Dieu. Il ne pouvait pas dire à Moïse, je vais prier le Dieu que toi tu adores, je vais te prier, parce que ce n'était pas son Dieu. Il ne pouvait pas dire mon, il pouvait juste simplement dire ton. Parce qu'il savait qu'il ne rentrait pas, qu'il ne faisait pas partie de la même famille, et qu'il n'adorait pas le même Dieu que Moïse adorait. Et moi, je trouve ici que c'est quand même réconfortant. Même si Sion se plaint, eh bien, il a quand même, il démontre quand même qu'il a gardé une foi. Mon Seigneur. Et même si on se plaint, eh bien, dans la façon qu'on s'exprime, on doit se rappeler que Jésus-Christ est mon Sauveur, que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il est votre Sauveur, qu'il est aussi votre Seigneur. Et alors, quelle est la consolation ici que Dieu accorde? Verset 14. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Voilà la réponse rassurante que le Seigneur va prononcer suite aux lamentations à la plainte de Sion. L'Éternel m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Et lorsque Dieu parle, on ne doit jamais douter que ses paroles ne correspondent pas à la vérité. Dieu se souvient de chaque personne qui fait partie de son peuple et nous sommes en sécurité entre ses mains. Amen. Il dit à chacun de vous ce matin, « Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. » Puisque tu m'appartiens, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Puisque je suis ton Dieu, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. C'est ce que le texte ici veut faire ressortir. De cette manière, il est tout à fait impossible que je puisse oublier un seul de ceux qui m'appartiennent, dit le Seigneur. Tu peux donc être assuré que je ne peux pas t'oublier. Et si jamais vous avez pensé que Dieu pourrait un jour avoir des pertes de mémoire au point de vous oublier, le fait que vous êtes gravé dans les paumes de ses mains devrait vous rassurer au plus haut point, car c'est dans les mains de Dieu lui-même que le souvenir de votre nom est gravé, frères et sœurs. Si le Seigneur avait écrit votre nom sur son vêtement, eh bien, s'il devait, je parle à la manière des hommes, bien sûr, mais s'il devait changer de manteau un jour, ben si votre nom est là, puis il change de manteau, il aurait été possible de dire, hey, écoute, il veut, oh non, il n'a pas mis le même manteau, mon nom n'est pas sur le nouveau, il va m'oublier, quoi. S'il l'avait mis sur une bague, ou à l'intérieur d'une bague, ou sur le dessus d'une bague, Jean Cudon, et puis qu'à un moment donné, il s'en va se baigner, il enlève ses bagues et tout, et puis que là, il les perd, quelqu'un, « Oh, mon Dieu, il va oublier mon nom. » Frères et sœurs, on ne peut pas se tromper aujourd'hui, on ne peut pas avoir de doute. Vos noms, ils sont gravés dans les paumes de ses mains. Dans les paumes de ses mains. Il a mis la marque de son amour là où elle ne peut pas être mise de côté, sur les paumes de ses mains. John Anderson, qui était pasteur d'une église presbytérienne à Ellensburg, raconte qu'à plusieurs reprises, il a vu dans certains pays d'Asie des hommes qui avaient tatoué les portraits, les initiales de leurs connaissances et de leurs amis sur les paumes de leurs mains. On pourrait penser, dit-il, que le soir, lorsqu'ils entraient à la maison, ils se lavaient les mains pour les effacer ou les faire disparaître, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils les avaient fait tatouer si profondément qu'ils ne pouvaient plus être enlevés. Et à chaque fois qu'ils ouvrent leurs mains, eh bien, ils aperçoivent les initiales et le visage de certains de leurs amis ou des membres de leur famille qui, et ils se remémorent ceux qu'ils aiment. Frères et sœurs, il en est de même avec le Seigneur. Nous sommes gravés dans ses mains, comme pour nous dire, je peux pas t'oublier. C'est impossible pour moi de t'oublier, car je t'ai gravé là où le souvenir de ton nom ne peut jamais être éloigné de moi. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Je trouve que c'est une belle image, ça. Dieu qui porte son regard, qui promet de porter son regard sur son peuple tout le long de l'année, qui promet de tendre l'oreille à écouter les revendications de ses enfants, les requêtes de ses enfants, mais aussi qui dit, écoute, non seulement j'ai des yeux pour te voir, des oreilles pour t'entendre, mais ton nom, eh bien, il est gravé sur les paumes de mes mains. Il a dit à tous ceux qui croyaient, Jérémie 31.3, je t'aime d'un amour éternel, c'est-à-dire quoi? Je t'aime depuis toujours. Et nous pouvons dire à une personne, dès que je t'ai vu, hein, on peut dire ça à quelqu'un, dès que je t'ai vu, moi je t'ai aimé. Mais est-ce que vous réalisez que Dieu, avant même qu'il vous voit, Dieu vous a aimé? C'est extraordinaire ça. Avant même que Dieu vous voit, il vous a aimé, puisqu'il dit, je t'aime d'un amour éternel et je t'ai aimé avant la fondation du monde. Si vous prenez juste le passage, je t'aime d'un amour éternel, vous pouvez en avoir pour toute votre vie à le creuser, ce passage-là. Il est très, très difficile à comprendre pour nous, les êtres humains qui vivons dans un temps bien précis, dans des secondes, des minutes, les heures et les années, les siècles. Je t'aime d'un amour éternel. Avant même que tu viennes au monde, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que ton père vienne au monde, je te connaissais déjà. Et ton nom était gravé sur les paumes de mes mains. Je savais qu'un jour tu m'accepterais. Ton nom était gravé sur les paumes de mes mains. Difficile à saisir, ça. Lorsque Dieu parle, pardon, le peuple de Dieu fut aimé par lui avant même la fondation du monde. Même lorsque quelqu'un s'éloigne de lui et attriste son cœur, il dit, même si tu m'abandonnes, moi je t'aime d'un amour éternel et je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu m'abandonnes, je ne t'abandonnerai pas. Et quand je pense à cette phrase de Jésus dans Apocalypse, hein, je pense pas qu'il avait un ton pour rentrer dans l'art de quelqu'un quand il a dit, écoute, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je pense que le Seigneur, il devait avoir le cœur triste quand il a dit ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que moi, je t'ai jamais abandonné. Jamais mon amour t'a fait défaut. Mais toi, tu es attiré. Tu es attiré vers autre chose, tu as guidé tes yeux autre part, et tu as abandonné ton premier amour. Alors que moi, je t'ai jamais abandonné. Et je ne t'ai jamais abandonné, ça veut aussi dire que je n'ai jamais abandonné l'espoir que tu reviennes à moi. Même si toi, tu m'as abandonné. Moi, je n'ai jamais abandonné l'espoir que tu reviennes à moi. Moi, je n'ai jamais abandonné l'espoir que tu te repentes, d'être détourné de moi. Parce que tu lui appartiens. Et si tu lui appartiens, ton nom est gravé dans les paumes de sa main. Il est bon de se rappeler avec quel instrument nos noms ont été gravés dans les mains, dans ses mains. C'est avec des clous. C'est avec ces clous qu'ils l'ont attaché à la croix. Voilà avec quel instrument nous avons été gravés dans les paumes de la main de Dieu. Les souffrances que Jésus a subies pour nous étaient telles qu'il était impossible qu'il puisse nous oublier. Puisqu'il est mort pour nous, il ne nous rejettera jamais. Par sa mort sur la croix du calvaire, Christ garantit à tous ceux qui croient en lui qu'ils vivront avec lui dans son royaume, et ce, aussi certain que lui-même y sera. Frères et sœurs, si vos mains apparaissent dans les paumes des mains de Dieu aujourd'hui, c'est à cause du sang qui a coulé sur la croix. Et vos noms sont gravés avec les clous qui ont transpercé les mains de Jésus. Dieu, à Jésus-Christ, lorsqu'il vous regarde, il vous dit, si ton nom est inscrit dans les paumes de ma main, c'est grâce à ce que Christ a accompli pour toi. Frères et sœurs, le sang, il est important. Parce que c'est le sang qui efface vos péchés, c'est le sang qui vous purifie. Et Dieu vous voit non pas dans votre vie antérieure, mais vous voit maintenant à travers Jésus-Christ. Et là, toutes les portes vous sont ouvertes pour que Dieu puisse vous bénir, pour que Dieu puisse agir à travers vous, pour que Dieu puisse faire grandir son Église. Dieu, le Père éternel, qui aime tellement ses enfants, ne peut penser un seul instant qu'il puisse être possible d'en oublier un seul. Regardez Jésus et imaginez-le sur cette croix. Pensez aux souffrances qu'il a subies à cet endroit pour vous, parce qu'il vous a tellement aimé. Peut-il par la suite vous oublier? Est-ce possible? Est-ce que Jésus peut nous oublier après avoir vécu toutes ces heures d'angoisse? Non, c'est pas possible. Si nos enfants peuvent nous oublier, une mère se rappelle jusqu'à quel point elle a souffert pour son enfant et elle l'aime pour les souffrances même qu'elle a endurées à sa naissance. Elle passera par toutes sortes de combats pour répondre aux besoins de son enfant. Elle pourra même se priver de nourriture pour que son enfant puisse manger. Mais elle aura fait tellement pour lui qu'il lui sera impossible de le rejeter. Nos parents, ils nous ont montré à travers toutes sortes de petites actions dans les maisons dans lesquelles on est élevés, jusqu'à quel point ils nous ont aimés. J'ai vu pendant longtemps ma mère a presque jamais mangé avec nous. Elle servait, on était 10, donc elle servait 9 assiettes. Et ma mère, pour être sûre qu'on ne manquerait pas de nourriture, pour qu'on puisse manger à notre faim, eh bien, elle prenait son assiette et elle récupérait ce qu'on avait laissé dans nos assiettes. Puis là, elle se faisait un repas avec ça. Et elle nous disait ceci, priez Dieu de ne jamais, jamais être privé de nourriture. Mes parents ont connu la crise de 29. Vous savez, les gens qui allaient dans les champs et qui avaient une vache qui traînait durant la nuit, on lui coupait une jambe parce que les gens avaient faim, quoi. Ouais. Mes parents ont vécu ça, quoi. Mon père a mangé des racines, quoi. Mon père a mangé des cerises et des fraises qu'il devait aller trouver dans les bois, quoi. Et ma mère me disait, priez Dieu de ne jamais, jamais manquer de nourriture. Et ma mère et mon père s'en sont privés dans d'autres choses aussi, pour que nous, on puisse avoir l'éducation nécessaire, pour que nous, on puisse avoir un avenir autre que celle que nos parents ont eu. Et on revient avec la phrase ici du Seigneur. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle doit allaiter? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle doit allaiter? À combien plus forte raison, si une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allaite, à combien plus forte raison, Dieu ne peut pas oublier son enfant qu'il a mis au monde, son enfant qui lui a permis de naître de nouveau et avoir une nouvelle espérance. Pardon. Et encore une fois, à travers les paroles, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Dieu semble dire, j'ai fait tellement pour vous que je ne pourrai jamais vous oublier. Vous savez, le passage, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le mot tellement ici, quand vous grattez dans le texte grec, le mot tellement, là, ça veut dire car Dieu a aimé de façon exagérée le monde. Dieu a aimé de façon exagérée le monde. Est-ce que vous pensez que c'est pas exagéré de sacrifier quelqu'un, celui qu'on aime le plus, le seul qu'on a, pour des gens qui n'en ont rien à cirer de Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est pas exagéré de nous avoir aimés à ce point-là? Car Dieu vous a tellement aimé. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher en sachant qu'il y a une majorité de personnes qui le rejetteraient. Est-ce qu'il nous a pas aimés de façon exagérée? Et malgré cela, malgré qu'il savait qu'on le rejetterait, eh bien, Dieu, son amour n'a pas diminué pour autant. C'est extraordinaire, ça. C'est magnifique, quoi. Un homme n'oublie pas l'œuvre qu'il a accomplie à travers ses mains, surtout si c'est quelque chose qu'il a décidé lui-même de faire. On raconte que lorsque Paris fut assiégé, un artiste de renom avait caché un grand tableau qu'il avait commencé à peindre, mais qu'il n'avait pas eu le temps de terminer. Va-t-il oublier d'aller rechercher sa toile lorsque Paris sera libéré? Pas du tout. Il se rappelait l'œuvre qu'il avait peint avec ses propres mains, et il est retourné la récupérer pour mettre la touche finale à son œuvre lorsque Paris a été libéré. Frères et sœurs, il en est de même avec Dieu. Il a tellement fait pour nous qu'il ne veut pas nous perdre. N'a-t-il pas fait de nous de nouvelles créatures en Christ et ne nous a-t-il pas donné son Saint-Esprit qui habite en nous? Alors vous pouvez être assurés qu'il ne se détournera jamais de l'œuvre qui lui a coûté si cher pour nous racheter la vie de son propre Fils. Lorsqu'un souvenir est gravé sur la paume de la main d'un homme, ce souvenir est alors lié et fait partie de la vie de cet homme tant et aussi longtemps qu'il vit. Ainsi en est-il avec Dieu. Il a lié son peuple avec sa vie. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, verset 19, on est tellement habitué à le lire que souvent on n'analyse pas, Jésus dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est parce que je vis que vous vivrez aussi. C'est parce que je suis ressuscité que vous allez aussi ressusciter. C'est parce que je vais régner dans le royaume de Dieu que vous allez aussi régner dans le royaume de Dieu. C'est parce que je suis héritier de tout ce que Dieu a fait que vous aussi, vous êtes devenus des co-héritiers de tout ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, quand on saisit ça, on est capable de dire, comme l'apôtre Paul, que tout ce que le monde permet de voir à mes yeux, je dois contempler ça comme étant de la boue. De la boue. Par rapport à ce que Dieu me prépare en Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu, et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, nous dit l'apôtre Paul. Frères et sœurs, en terminant, ne nous rappelons pas de ce que Jésus a fait pour nous seulement à la table de la Sainte-Cène. Rappelons-nous de lui constamment comme il a fait pour nous. Que son nom soit gravé à tout jamais, non seulement sur notre cœur, mais aussi sur les paumes de nos mains. Demandons à Dieu de toujours nous aider à penser à Jésus, et comme une cloche, que nous puissions faire entendre une seule note, celle de notre amour pour Jésus. Que l'amour de Jésus soit le seul thème qui absorbe tout notre être, jusqu'à ce que nous disions à Christ, « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Et que ça puisse être notre parole ce matin. Le Seigneur, il dit, écoute, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Qu'en retour, on puisse faire un examen de conscience, laisser le Saint-Esprit nous examiner, prendre la décision nous aussi de dire aujourd'hui, Seigneur, moi je vais vivre pour toi, et je ne t'oublierai pas, parce qu'à partir de maintenant, ton nom, Seigneur Jésus, est gravé sur les paumes de mes mains. Amen.